France Bleu Creuse, le dossier du jour, Josiane Perron.
Bonjour à tous et toutes sur les bancs de l'école ce matin avec en direct pour échanger avec vous des points de vue ou répondre à vos questions, Sylvie Bourdier, principale du collège Jules Marouzeau à Guéret, et avec nous également Karine Girac, elle est directrice du département langue française aux éditions Larousse. Et justement, nous allons en parler de cette langue française, mais aussi du portable ou pas à l'école, de l'uniforme ou pas à l'école. Vous avez forcément une opinion, un avis sur tous ces points en tant que parents, voire même grands-parents et voire même collégiens, lycéens ou étudiants, qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre, vous exprimer. C'est à ce numéro
05 55 52 37 38.
Sylvie Bourdier, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Bleu Creuse. Avec nous également en direct téléphonique, Karine Girac, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous représentez ce matin le département langue française aux éditions Larousse. Sylvie, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Lorsque l'on écoute ou que l'on entend, selon le degré d'intérêt, les jeunes ne savent plus parler correctement le français. Ils écrivent beaucoup plus mal, lisent avec difficulté. C'est que nous sommes particulièrement pessimistes ou c'est une réalité?
Il y a un petit peu des deux. On va dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut constater que la langue française évolue très vite, qu'elle est en ce moment aussi soumise à certainement certaines distorsions liées à l'usage du téléphone portable, notamment, et des réseaux sociaux. Ça, c'est une réalité pour les enfants, pour les jeunes, je parle. Mais en même temps, il y a un gros effort qui est fait justement par l'école pour essayer de préserver l'essentiel, de préserver la qualité de communication en langue française entre les citoyens futurs que nous formons. Donc, je pense qu'il y a effectivement une tension réelle entre ces deux pôles. D'un côté, une langue qui évolue très vite, et à l'autre, à l'opposé, dans l'école, une volonté de préserver, de poursuivre un apprentissage correct de cette langue.
Une langue qui évolue très vite. Karine Girac, pour les éditions Larousse, est-ce que ce sont des éléments que l'on peut retrouver aujourd'hui dans la façon de faire un dictionnaire, de le réaliser?
Oui, oui, c'est tout à fait vrai, parce que c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, on sent que la langue française évolue énormément, et nous, on le constate, en fait, dans les nouveaux mots qu'on observe, parce que vous savez que chaque année, avant de faire le dictionnaire, on observe toutes ces nouvelles occurrences de la langue. Et c'est vrai qu'on en constate aujourd'hui plus que il y a 10 ans. Et c'est sans doute lié, effectivement, à l'apport des nouvelles technologies. On sent que sur les réseaux sociaux, etc., beaucoup même de jeunes proposent des nouveaux mots et que, du coup, il y a une très forte création de la langue.
Une forte création, une forte imagination aussi, peut-être, Sylvie, parce que ensuite, notamment par rapport aux plus jeunes, des fois, on se dit, mais on ne parle plus la même langue.
C'est peut-être un petit peu excessif, mais c'est vrai que il y a un vocabulaire moderne, on va dire, des jeunes qui peut parfois surprendre, qui est souvent une production de mots qui essayent d'être plus significatifs, qui essayent d'être plus courts, qui essayent d'être plus percutants, qui sont parfois aussi inspirés de l'anglais ou de néologismes américains aussi. Donc après je pense que c'est s'il y a vraiment un écart, c'est avec une génération ancienne et la nouvelle génération. Sinon, c'est un glissement qui se fait progressivement et tous les gens qui ont, diront, un peu moins de 40 ans, ils sont déjà dans cette mouvance, puisqu'ils utilisent aussi ces mêmes outils au quotidien.
Karine, qu'en pensez-vous? Comment alors, vous voyez les choses?
En fait, je pense que, comme le disait un petit peu Sylvie, c'est vrai qu'il y a deux courants un petit peu différents. C'est-à-dire que d'un côté, il y a beaucoup de création de mots, effectivement, notamment par les jeunes, c'est vrai. Et de l'autre côté, je pense que quand même, grâce à l'école, et ils font bien la différence entre le vocabulaire qu'ils peuvent utiliser via les SMS, etc., et le vocabulaire dont on a besoin lorsqu'on écrit, soit à l'école, soit dans le cadre après professionnel. Et je trouve que ce qui est intéressant quand même, c'est de se dire aussi de se remettre un peu en perspective et de se dire que il y a toujours eu en fait plusieurs langues françaises, c'est-à-dire la langue qui est celle qui est officielle que l'on doit utiliser à travers l'école et puis après dans le cadre du travail. Et puis une langue un petit peu plus familière qui soit est très courte, soit même parfois était argotique. Hein, au tout 19e siècle, au 20e siècle, au début du 20e, il y avait cet argot très fort où certains mots n'étaient pas connus de tous, mais étaient connus d'une certaine communauté. Donc il y a toujours, je crois quand même, plusieurs langues françaises avec une langue très forte qui est la langue officielle. Et je crois que ce qui est très important, c'est que les jeunes fassent bien la différence entre ce que l'on peut utiliser à la limite dans le vocabulaire entre amis via des SMS et bien sûr ce qui est tout à fait utilisable dans le cadre de ses études et du monde du travail.
La différence est bien réelle, Sylvie. Les jeunes distinguent bien.
En tout cas, au niveau du collège, on peut constater qu'il y a des efforts qui sont réellement fournis par les jeunes dès l'instant où ils se passent à l'écrit, par exemple. Et aussi un rappel constant des adultes pour les faire s'exprimer le plus correctement possible au quotidien. En tout cas, c'est vraiment un travail collectif qui est mené par les adultes dans une communauté scolaire. Alors évidemment, avec des résultats un petit peu différents selon les enfants, mais je pense que, comme le dit Karine, on est vraiment sur effectivement une dichotomie entre les niveaux de langue, mais avec une compréhension de ce qui est nécessaire pour s'insérer dans la vie sociale et professionnelle après.
Aux éditions Larousse, Karine, vous avez le dictionnaire de la langue française ?
On a,
je sais que vous en avez plusieurs, hein, oui, mais particulièrement sur ce point-là.
On a le Petit Larousse illustré, qui est un dictionnaire donc qui existe maintenant depuis quasiment 180 ans, hein, qui a été créé en 1875 par Pierre Larousse. Et effectivement, ce dictionnaire se veut le dictionnaire de la langue en usage, c'est-à-dire du français que l'on utilise au jour le jour, et surtout du français qui est partagé, c'est-à-dire que l'ensemble, la majorité des Français, des francophones utilisent. On évite tout ce qui est vocabulaire un petit peu spécifique à certaines communautés. Par exemple, uniquement la communauté des médecins ou des informaticiens. Voilà. On ne fait rentrer que les mots, si vous voulez, les nouveaux mots que tous les Français peuvent utiliser ou être à même d'utiliser dans les années à venir.
Sylvie.
Oui, de toute façon, le réflexe d'aller chercher dans le dictionnaire, évidemment, maintenant, il est un petit peu en train de changer, puisqu'on va plutôt sur Internet pour chercher une orthographe correcte ou le sens d'un mot. Mais par contre, dans la Creuse, là, il y a quand même quelque chose de très particulier, c'est que le conseil départemental, depuis très longtemps, a choisi de donner à chaque élève de 6e un dictionnaire de la langue française, un petit dictionnaire, mais qui est remis à la rentrée. Moi, j'en ai un stock chez moi là, que je vais distribuer dès lundi. C'est symboliquement fort. Ça veut dire qu'on tient quand même à ce que, justement, chaque enfant, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, puisse bénéficier de l'aide de cet outil, l'avoir dans sa chambre, le consulter éventuellement. Alors bon, est-ce qu'ils sont vraiment tous beaucoup feuilletés? Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est bien déjà, et j'en remercie les élus pour cela, de nous confier ce dictionnaire chaque année.
Savoir chercher dans un dictionnaire, il vaudrait mieux que ça ne se perde pas.
Oui, puis ça s'apprend dès l'école primaire, et ça se poursuit aussi, puisque dans les collèges, notamment, il y a une personne référente pour cela, le professeur documentaliste qui est en charge de poursuivre ce travail de recherche dans les livres, en plus du travail de recherche sur Internet. C'est-à-dire qu'on ne doit pas oublier les livres, voilà.
Sylvie Bourdier, principale du collège Jules Marouzeau à Guéret, Karine Girac, directrice du département langue française chez Larousse, sont prêtes à échanger avec vous. Vous avez sûrement un point de vue, vous avez sûrement une question. 05 55 52 37 38, à tout de suite.
Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. Sugar and spine. I feel nice. Sugar and spine. So nice. So nice. I got you. sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, my sugar and spice. Sugar and spice. So nice, so nice, I got it here. Wow, and I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good, but I got it here. So good, but I got you. So good, so good.
I feel good, James Brown.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Nos deux invités du jour, Karine Girac, directrice du département langue française aux éditions Larousse, Sylvie Bourdier, principale du collège Jules Marouzeau à Guéret. Nous parlons pour le moment de la maîtrise ou plus petite maîtrise de la langue française, ce qui peut nous rassurer en revanche, c'est vos propos à toutes les deux depuis 9h, parce que nos jeunes ne sont pas si nuls que ça. Tiens d'ailleurs, Sylvie Bourdier, combien d'heures par semaine sont consacrées à la langue française
est vraiment une priorité de tous les ministères depuis fort longtemps, et on essaye de maintenir un niveau effectivement d'horaire suffisant, même s'il a un peu baissé, il reste important. C'est le plus important de toute façon de tous les horaires du collège, puisqu'il est d'environ 4-5 heures par semaine. Ceci dit, on promeut aussi auprès de tous les autres enseignants, et c'est dans leur statut maintenant, de veiller beaucoup à la qualité de l'usage de la langue française dans leur propre enseignement, même s'il s'agit de sciences, même s'il s'agit de langues étrangères. À chaque fois que le français est usité dans la classe, il doit être surveillé, il doit être encouragé qualitativement pour les enfants. Et ça, c'est très important, parce que ça fait prendre conscience que le français, c'est pas une matière. La matière serait plutôt la grammaire ou la littérature, enfin les choses comme ça, mais le français, c'est aussi le véhicule de toutes les pensées, de toutes les réflexions, de toute la logique.
Karine Girac, vous êtes tout à fait d'accord avec ça, j'imagine.
Oui, 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 tout à fait. C'est vrai que je pense que on fait au quotidien du français, et qu'au collège, effectivement, les enseignants consacrent beaucoup, beaucoup de temps à l'apprentissage à la fois des règles de grammaire et d'orthographe, et surtout à leur bon usage. Et je pense que c'est très important, parce que c'est ce qui permettra après à nos futurs lycéens et étudiants d'être à l'aise dans la langue de Molière, et à la fois bien sûr d'éviter de faire des fautes d'orthographe, mais aussi de savoir rédiger. On sent que c'est vraiment une préoccupation aujourd'hui de maîtriser la langue de façon à pouvoir s'exprimer de manière en étant très à l'aise à l'écrit comme à l'oral.
Ben, cela peut être important, Sylvie, pour leur devenir, leur futur professionnel, enfin non, pour tous les domaines
oui,
de la
puis,
vie.
Oui, tout à fait. Ça, c'est déjà quand on se projette vers l'avenir. Mais même au quotidien, dans l'apprentissage de toutes les matières, à un moment donné, si on ne comprend pas bien les consignes parce qu'on maîtrise mal la langue française, si on est en difficulté aussi avec la logique de la langue, avec les connecteurs logiques qui permettent de définir définir une proposition même mathématique, eh bien là, on voit très vite les limites du français qui sont atteintes. Donc il faut que les enfants aient une maîtrise suffisante de la langue française pour acquérir aussi toutes les autres notions.
À propos de définir, Karine Girac, comment sont réalisées les définitions de mots dans le dictionnaire? Je pense notamment aux mots vraiment plus jeunes, nous allons dire. Comment ça se travaille, ça?
Alors en fait, on a des conseillers et on a des lexicographes, c'est-à-dire des gens dont le métier est de définir la langue et de faire des définitions, qui vont travailler pendant des mois en fait pour établir la meilleure définition possible pour expliquer le sens de ces nouveaux mots. Alors comme vous le disiez, effectivement, certains de ces mots sont parfois peut-être un petit peu plus techniques quand ils concernent par exemple des nouvelles technologies ou des sphères un petit peu médicales, et d'autres sont des mots de la langue plus courante. Et en fait, c'est souvent d'ailleurs sur les mots de la langue un peu courante que nous travaillons le plus, parce que ce qui paraît simple ne l'est pas forcément. Et c'est vrai que la difficulté de l'art de la définition, c'est en très peu de mots et très peu de place, d'arriver à rendre le sens évident sans faire de contresens ou introduire d'erreurs.
Donc ce qui demande quand même des compléments d'explication de la part des enseignants, Sylvie, parce que parfois on peut se sentir un peu perdu aussi face à une définition, surtout quand on s'imagine autre chose.
Oui, il y a toujours un petit côté un peu abstrait dans les définitions, déjà parce que c'est de la lecture, et il faut être sûr aussi que la lecture fasse sens pour les enfants, et ça c'est aussi un challenge très très important de l'école primaire et ensuite du collège. L'enseignement obligatoire, c'est jusqu'à 16 ans pour l'instant, et il faudrait pouvoir s'assurer qu'à 16 ans, quand les enfants vont quitter le système, qu'ils aient une maîtrise de la lecture qui fasse sens, c'est-à-dire que non seulement ils déchiffrent bien, mais en plus qu'ils comprennent bien le sens de ce qu'ils lisent. Et le lexique, le vocabulaire, donc là-dedans, joue un rôle extrêmement important. Et certainement qu'on s'aperçoit vite que des enfants sont en difficulté parce qu'ils ont justement un lexique beaucoup trop... trop peu de lexique et un lexique d'un niveau trop élevé.
D'accord. Karine ?
En fait, c'est vrai que je pense que la difficulté est surtout liée peut-être à l'essor des nouvelles technologies, c'est le fait que on oublie parfois que c'est très important de passer par des phases initiales de recherche. Quand on recherche un mot dans le dictionnaire, on est actif. Quand on recherche une information sur Internet, on est plus passif. Par exemple, quand on recherche une orthographe, dans le dictionnaire, on peut se tromper sur l'orthographe que l'on cherche. Par exemple, si on cherche audition avec un O, on va pas trouver le mot. Et cela va nous amener à nous dire, mais peut-être que ce O, ce son O ne s'écrit pas avec juste O, mais A-U. Et du coup, on va finir par le trouver et on a sans doute plus de chances de mémoriser ce mot en l'ayant cherché, en ayant pris du temps pour le chercher. Alors que sur Internet, la difficulté, c'est que vous avez la complétion automatique, c'est-à-dire que vous commencez à taper le mot et Internet vous corrige tout de suite le mot ou vous propose plusieurs orthographes. Donc en fait, ça nous aide, mais du coup, on est plus passif et le risque, c'est qu'on retienne moins. Donc il y a ce point-là et il y a un autre point qui me semble important, c'est aussi que pour savoir chercher, encore faut-il avoir appris comment chercher. Et c'est là où je trouve que le dictionnaire papier est intéressant et peut aider ces enfants dans la continuité de leurs études et de leur vie professionnelle. C'est que on apprend en fait à chercher vraiment avec l'ordre alphabétique, à chercher des informations précises, un nom propre, un nom de pays, etc., une carte. Et ensuite, c'est plus facile sur Internet. Et je pense que c'est très important aussi d'apprendre les différents registres de langue, etc., pour pouvoir être à l'aise, effectivement, comme le dit Sylvie, après pour être de bons lecteurs. Mais en fait, pour être de bons lecteurs, il faut des outils. Et je crois que tout ce travail que font effectivement les enseignants du primaire et les enseignants de collège est très très important, parce qu'en fait, c'est ce travail-là qui fera que ces futurs étudiants les salariés seront très à l'aise dans la langue, dans leur façon d'appréhender les informations, le monde qui les entoure.
Alors effectivement, vous soulevez un point très intéressant, Karine, d'où l'intérêt, Sylvie Bourdier, de votre distribution de dictionnaires à la rentrée. Est-ce que vous vous êtes aperçu si oui ou non les enfants savent chercher dans un dictionnaire, savent s'en servir finalement ?
Là encore, on a des résultats très hétérogènes, mais ce qui compte, c'est de lancer une dynamique, c'est-à-dire de montrer que ces outils-là existent, de s'en servir, de me montrer devant eux. Et ça se fait beaucoup au primaire. Dans la classe, il y a un dictionnaire papier, et systématiquement, les enseignants envoient les enfants chercher dans ce dictionnaire quand il y a un mot un peu nouveau. Et là, c'est des réflexes qui s'acquièrent. Alors, bon, est-ce qu'ils vont se perdurer ? Est-ce qu'on va réussir à les entretenir suffisamment longtemps jusqu'à l'université, comme dit Karine, je ne sais pas. Mais il faut déjà les créer, ces réflexes. Et c'est l'école qui peut les créer. Et puis la famille aussi, bien sûr.
Comment ça, un dictionnaire papier dans les classes, ils ne cherchent pas sur leur portable, Sylvie ? Là, vous m'avez tendu la perche, je suis désolée. Mais...
Ben oui, on parle bien d'un usage pédagogique des téléphones portables au collège, notamment, puisqu'il y a une nouvelle loi qui vient de sortir. Mais c'est effectivement d'abord... dans les dictionnaires papier à l'école primaire qu'il faut prendre des bons réflexes, ce qui n'empêche pas après par la suite de chercher sur internet comme le disait Karine tout à l'heure, parce que ça va en général plus vite et c'est aussi de bons réflexes, mais le papier d'abord.
La suite de cette conversation avec toutes les deux dans quelques instants. Et vous aussi, vous pouvez réagir. Est-ce bien ou pas bien le dictionnaire ? Vaut-il mieux finalement les préparer encore plus à tout ce qui touche le multimédia, les téléphones portables et autres ordinateurs ? Qu'en pensez-vous ? 05 55 52 37 38.
France Bleu.
France Bleu et le magazine Régal vous invitent à de beaux voyages culinaires à travers les régions françaises. Vous êtes en quête de goût et vous aimez cuisiner ? Retrouvez dans Régal des recettes gourmandes et accessibles inspirées des produits de saison. Et ce mois-ci dans Régal, une escapade en Pays Basque en compagnie de chefs et de producteurs d'exception. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu. France Bleu présente Les gens du Nord, l'album. Pour la première fois, 24 artistes chantent avec fierté les chansons cultes du Nord.
Un joli sourire de France, des fossettes aux joues.
Avec Danny Boone, Lynn Renaud, Pierre Richard, Alain Souchon, Yolande Moreau, Maxime Le Forestier et bien d'autres. Le Nord a enfin son album. Les gens du Nord, un événement France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Venez rencontrer les poneys et chevaux. 2000 poneys clubs et centres équestres de la Fédération Française d'Équitation vous ouvrent leurs portes les dimanches 9, 16 et 23 septembre. Au programme, baptême, visite, démonstration. L'équitation, une activité proche de la nature. Trouvez votre club et celui de vos enfants sur journeeducheval.ffe.com.
France Bleu Creuse.
Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, et dit famine dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus,
eh ben y'en a encore.
Et c'est la zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse.
Alors on danse Stromae.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
Alors nous en parlons, la langue française, l'appui des dictionnaires, plus particulièrement ce matin, les dictionnaires des éditions Larousse, avec, nous en parlons avec Karine Girac, directrice du département langue française chez Larousse, Sylvie Bourdier, principale du collège Jules Marouzeau à Guéret. La question qui peut se poser, Karine, puisque nous avons bien compris que les dictionnaires, certes, sont maintenus à l'école, maintenus dans la plupart des maisons aussi, je pense. Mais est-ce que finalement, tout ce qui est multimédia, les réseaux sociaux, Internet, etc., ce n'est pas directement un concurrent, tout ça, pour vous, pour des éditions ?
C'est un petit peu un concurrent, oui, en termes d'usage, un petit peu, et en même temps, c'est aussi des outils. Ce sont aussi des outils complémentaires. Par exemple, aujourd'hui, dans bon nombre de dictionnaires chez Larousse, et notamment le Petit Larousse, on offre en plus du dictionnaire papier une petite carte qui permet d'avoir accès avec un code à un dictionnaire numérique Larousse, qui est enrichi d'une encyclopédie avec des dossiers importants pour tout ce qui est toutes les grandes notions scolaires. Sur l'histoire des arts, etc. Et puis avec aussi un conjugateur numérique, donc qui permet de conjuguer, d'avoir 9600 verbes qui sont conjugués à toutes les formes et à tous les temps. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il faut... bien sûr que ce sont d'autres usages, mais ce sont des usages qui sont complémentaires. Par exemple, ce que je trouve intéressant, c'est que sur ce dictionnaire numérique et dans la partie encyclopédique, on a beaucoup plus de place. Donc autant dans le dictionnaire, vous voyez, on va avoir une double page, sur par exemple les impressionnistes, autant sur cet espace numérique, on pourra avoir un dossier d'une quarantaine de pages avec énormément de documents en couleur sur les impressionnistes. Donc c'est un vrai complément pour des enfants ou des adultes qui voudraient plus d'informations, plus d'iconographie. Il y a aussi des petites vidéos, des petites explications, par exemple du fonctionnement des organes. Donc je crois qu'il faut pas le voir forcément comme quelque chose qui serait nocif. Au contraire, je crois que ce sont d'autres sources dont il faut qu'il faut utiliser, qui ont leur qualité. Après, moi, ma petite contrainte serait de dire qu'il faut faire attention sur Internet. Je crois que il y a des choses qui sont très bien, des choses qui sont moins exactes. Donc il faut faire attention. Nous, c'est pour ça que chez Larousse, on a notre site internet larousse.fr, et puis on a ces espaces qu'on offre en plus des ouvrages, parce que là, ce sont uniquement des informations que l'on a vérifiées qui sont en ligne, si vous voulez. Et ça, je trouve ça important. Et c'est pour ça que je trouve aussi important que il y ait dans l'enseignement un vrai apprentissage de comment utiliser Internet pour éviter d'aller sur des ressources qui sont peut-être pas très fiables.
Sylvie Bourdier, un dictionnaire numérique qui conjugue à notre place, mais c'est cool ça.
Oui, puis bon, je rejoins totalement le propos de Karine. Effectivement, ça se complète, ça ouvre des perspectives excellentes. On est dans une dynamique aujourd'hui de former des enfants avec beaucoup de soubassement culturel. On a des priorités maintenant ministérielles qui vont vers l'éducation artistique et culturelle, qui sont très nettement affirmées. Et ces outils-là ne peuvent que compléter et enrichir grandement ce que le professeur, dans le cadre du cours, peut apporter. Aujourd'hui, le rôle du professeur, c'est certes d'apporter des connaissances, certes de vérifier qu'elles sont acquises, mais c'est aussi de donner des clés, de donner de l'ouverture, proposer des sites, proposer des choses sur Internet qui soient exactement vérifié, effectivement, et aussi qu'ils soient de grande qualité et qu'ils soient nombreuses pour que les enfants apprennent à faire le tri un petit peu dans tout ça. Ça, c'est un des principaux apprentissages qui nous reviennent aujourd'hui.
En sachant que bon nombre de parents souhaitent en revanche que ce soit très suivi, tout ça, ils ne sont pas forcément favorables, ni l'école, je crois, à ce que les enfants aient constamment sous les yeux une tablette, un portable.
Non, ben, encore une fois, il faut que ça reste raisonnable, en temps, en volume, que dans les choix qui sont faits. Mais malgré tout, c'est la tendance et il ne faut pas s'en priver non plus. Alors, on a de toute façon des réseaux dans les écoles qui sont surveillés, des sites qui sont interdits, sur lesquels les élèves ne peuvent pas aller. Bon, on peut toujours contourner les interdits, mais globalement, quand on est dans le cadre de l'école, on sait que les enfants font bon usage de ces choses-là, parce qu'on les surveille, parce qu'on les guide. Ils le font jamais tout seuls, pratiquement toujours avec un encadrement adulte. Et à partir de là, on est vraiment dans la dynamique de l'enrichissement, et ça, c'est très important.
Karine, donc si je comprends bien les propos de Sylvie et puis les vôtres, oui, pourquoi pas, place au numérique, mais bien encadré.
Voilà, tout à fait, et en ayant appris les bons outils pour justement savoir se retrouver dans toute cette multiplicité d'informations du numérique. La grande difficulté hein, pour les enfants, c'est de trouver la bonne information et l'information qui est exacte.
Karine, puis-je vous demander si vous avez des enfants ?
Tout à fait, j'ai deux enfants, oui.
De quel âge ?
Une fille de 10 ans et un garçon de 8 ans.
Ils ont le téléphone portable dans la poche quand ils vont à l'école ?
Non. Ni l'un ni l'autre. Ma fille a juste, pour tout vous dire, un vieux téléphone qui est à touche, en fait. Il n'y a pas d'écran, en fait. Elle voit aucune image, elle peut pas aller sur Internet. Elle peut juste nous envoyer éventuellement un SMS si elle a un souci ou voilà.
Voilà.
Pas bien.
Sylvie, c'est pas mal, ça.
Oui, ben de toute façon, là aussi, c'est pas le fait de détenir un téléphone en soi qui peut être mauvais. Ce qu'il faut, c'est encore veiller à ce que l'usage qui en est fait soit le bon. Et dans les collèges, là, on a une interdiction qui est portée de se servir du téléphone, de le sortir, de l'exhiber. Et nous, maintenant, on est habilité à le confisquer. C'est la nouveauté de cette loi. Mais de toute façon, ça se travaille en amont. C'est-à-dire, c'est aux parents aussi d'expliquer qu'ils vont confier un téléphone à l'enfant, mais dans une perspective très claire qui est de les joindre en cas de besoin, et c'est à eux de veiller à la façon dont l'enfant s'en sert le plus longtemps possible. Alors bon, le problème, il est qu'on doit partager ces choses-là entre l'école et la famille. On est dans la coéducation, c'est un thème qu'on a déjà un peu traité ensemble.
On a déjà parlé.
Mais c'est exactement ça aussi. Il ne faut pas poser des interdits, c'est une chose, mais on n'éduque pas en interdisant, il faut d'abord éduquer.
Sylvie, je vous ai promis que vous seriez libérée à l'heure parce que c'est la pré-rentrée, là, à Marouzeau.
Oui, bien sûr, là, il y a 80 personnes qui m'attendent. Je vais les rejoindre sans tarder.
En guise de mot de la fin pour aujourd'hui, Sylvie.
Eh bien, moi, j'étais vraiment très, très heureuse de parler de la langue française au collège et dans l'école, et avec quelqu'un qui est lexicographe de plus, enfin, qui travaille dans le lexique, puisque j'étais prof de français. Et je trouve que on faut aussi poser le problème correctement, c'est-à-dire dire la langue française va complètement à volo. Non, par certains côtés, elle s'enrichit aussi, elle évolue, ça c'est sûr. Et je pense que c'est en veillant au plus près des enfants à la façon dont ils l'intègre, qu'on pourra la faire perdurer à travers les siècles. Voilà.
Karine, pour les éditions de Larousse, pardon, en conclusion pour aujourd'hui.
Mais écoutez, moi je vous remercie vivement d'avoir pu participer à cette émission. J'étais ravie d'y participer et je crois que ce qui est important, effectivement, c'est ce qu'on a dit, c'est tout cet accompagnement de nos enfants, grâce à l'école, grâce aux enseignants. Et effectivement, je pense que il faut pas s'inquiéter pour notre langue. Elle est en très bonne voie et je trouve qu'elle se bat très bien face à l'anglais, qui est aussi créateur de beaucoup beaucoup de nouveaux mots. Mais je crois que ce qui est important, c'est vraiment de donner tous les outils et via un accompagnement très proche à nos enfants pour utiliser au mieux cette langue et puis pour s'amuser avec, parce que je crois que vraiment la particularité quand même des Français, c'est leur amour de la langue, et ça on le retrouve chez les jeunes et dans toutes les générations de notre beau pays.
Merci beaucoup Karine d'avoir pris du temps pour être avec nous, et puis nous allons vous souhaiter une bonne rentrée.
Merci, très merci beaucoup, vous aussi.
À bientôt.
À bientôt.
Sylvie Bourdier, bonne rentrée.
Merci.
Non seulement à vous, aux enseignants, mais également aux jeunes. Vous avez révisé pendant l'été?
Non.
Bon, peut-être vous y mettre là.
Non,
à très bientôt.
Non, l'été c'est pas fait pour ça.
À très très bientôt Sylvie, un grand merci à vous.
France Bleu Creuse, le dossier du jour, Josiane Perron.
Et après la rentrée des plus jeunes, ce sera aussi la rentrée de certaines factures pour les plus grands. Bah oui, c'est comme ça, c'est la vie. Notamment facture d'eau que l'on ne comprend pas toujours. Toutes vos questions lundi dès 9h aux représentants d'Evolis 23.